Je crois que si Dieu a béni en 2013, il le fera en 2014. Et Dieu renouvelle chaque matin ses grâces. Et aujourd'hui, on va commencer une série de messages pour 2014. J'aimerais qu'on démarre fort l'année. Et je vais laisser tout de suite une bande-annonce vous présenter les quatre cultes que l'on va vivre ensemble. Si la vidéo est prête, c'est parti. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert, leur demanda-t-il. Un roseau agité, ça et là, par le vent. Mais qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Jean-Baptiste, le révolutionnaire. La révolution du sens de ta vie. La révolution d'un cœur transformé. La révolution au prix de ta vie. La révolution d'un royaume qui naît. Car c'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en parut aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vraiment, je vous assure, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. On va passer 4 dimanches ensemble pour analyser, comprendre et apprendre de cet homme qui a changé sa génération, de ce révolutionnaire de Dieu qu'est Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va aborder le premier point. On va ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Tous les textes aujourd'hui sont dans un chapitre 1er, donc c'est assez simple. Dans Marc, chapitre 1er. On va voir le premier aspect de la vie de Jean-Baptiste. Sa première révolution, c'est une révolution du sens de ta vie. La révolution du sens de la vie. Marc, chapitre 1er, verset 1er. C'est ainsi qu'a commencé l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « J'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits, Jean parut. » Amen. C'est parti pour l'analyse de la vie de cette personne, une révolution, la révolution du sens de ta vie. Est-ce que tu as trouvé le sens de ta vie? Est-ce que tu as trouvé le sens de ta vie? Et je sais pourquoi tu réponds pas, parce que, waouh, qu'est-ce que c'est que le sens de notre vie? Concrètement, c'est quoi? Le sens de ta vie, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre? Alors, si vous êtes un petit peu branché à la mode, que vous suivez peut-être des magazines, vous en avez plein d'émissions télé là-dessus, ou des coachs en développement personnel qui vont vous dire, on va vous aider à mieux vous développer, à développer vos talents, à développer vos forces. Et tous les livres, même des livres chrétiens qui sont très bons, ou même des fois ça vient en prédication, on vous propose de suivre un programme. Et le programme est suivant, c'est un peu toujours pareil, hein. Premièrement, réfléchis à tes rêves. Quels sont tes rêves? Deuxièmement, détermine tes valeurs. Troisièmement, fixe-toi des objectifs. Quatrièmement, reconnais tes points forts. Cinquièmement, passe à l'action. Sixièmement, collabore avec les autres. Et septième, ne te laisse jamais décourager. Et avec ça, tu connaîtras pas le sens de ta vie, en fait. Tu connaîtras le succès. Et le problème, c'est qu'on mélange les deux. Et que souvent, ce que l'on recherche dans notre vie, c'est le succès. Mais ce que Dieu voudrait que tu cherches dans ta vie, c'est le sens de ta vie. Et on est en fait tellement bombardé par la mentalité de ce monde qui est réussi, devient un champion, devient meilleur, soit plus productif, gagne plus, que ta femme soit de plus en plus belle, que tes enfants soient les plus intelligents du collège. Tu es tellement dans le plus que tu cherches le succès au lieu de chercher le sens. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que c'est fondamental. Parce que la mentalité de ce monde, c'est une mentalité du succès. Et les gens n'ont pas de sens. Je pense à Amy Winehouse, par exemple. Vous connaissez cette artiste incroyable. Elle a connu un succès phénoménal. Elle a connu un succès incroyable. Vous prenez les artistes, vous prenez les Kennedy, les présidents, tout ça. Ils ont connu du succès. Mais est-ce qu'ils ont trouvé le vrai sens de leur vie? Moi, je pense qu'à partir du moment où, comme Amy Winehouse, vous êtes arrivé à un point où vous préférez vous suicider, c'est que quelque part, le succès ne vous a pas donné le sens de votre vie. Donc, vous ne laissez pas tromper par la mentalité ambiante qui est dire « trouve le succès, le succès, le succès ». Le succès, vous en trouverez jamais assez. Vous serez jamais assez belle, vous serez jamais assez riche. Vos enfants ne seront jamais assez ce que vous prévoyez pour eux. Et vous allez être frustré toute votre vie. Le vrai épanouissement, le vrai objectif, c'est « Seigneur, quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre ?» Et le reste, c'est peut-être bien qu'après tu développes tes dons, ton succès, etc. Mais d'abord, quel est le sens de ta vie? Attention, peut-être une image pour... voilà comment on essaye de trouver le sens de notre vie souvent. Moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qui je suis? Et je peux vous dire une chose, vous ne trouverez jamais le sens de votre vie en regardant à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est l'inverse de ce que vous entendez partout. Les magazines de psychologie vont vous dire « Analysez-vous, connaissez-vous, regardez en vous. » Alors, je vous donne un exemple. Prenez les grandes inventions. Est-ce qu'une invention est capable à elle-même de dire pourquoi elle existe? Il ne faut pas confondre l'inventeur qui, lui, sait pourquoi il a créé la chose et l'invention. Mes amis, vous avez été créés par Dieu. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Donc, vous n'êtes pas capable de vous inventer et vous ne connaissez pas en vous-même votre raison d'être. C'est trop compliqué ou pas? C'est bon? Donc, toute la psychologie et toutes vos analyses, eh ben, ça vous servira peut-être à trouver du succès, mais ça ne vous trouvera jamais le sens de votre vie. Vous allez devoir vous placer devant le Créateur, celui qui sait pourquoi vous êtes sur la terre. Et lui va vous dire quel est le sens de votre vie. Il vous a laissé une lettre. Lui est connu de tous les hommes. Des fois, il manque des pages. Ça va, si c'est que le glossaire, ça va. C'est la Bible. Et cette lettre vous aide à trouver le sens de votre vie. Et le sens de votre vie, c'est quoi? Il y a un sens qui est vrai pour tous les hommes et femmes sur cette terre, tous les hommes et les femmes qui écoutent ce message et qui sont là peut-être ce matin. Et il y a un sens qui est spécifique à chacun d'entre vous. Il ne faut pas mélanger le sens universel et le sens personnel. Vous avez un objectif particulier et vous avez un objectif qui est vrai pour tous les hommes. Vous savez quel est l'objectif que Dieu a prévu pour tous les hommes et toutes les femmes, de toute génération, de tout peuple, de tout âge sur cette terre? Dieu a prévu que vous rencontriez Dieu et que vous développiez pendant votre vie sur la terre une communion avec lui. Que vous deveniez son ami, que vous deveniez un disciple de Dieu et vous renforciez votre communication régulière avec Dieu. Ça, c'est un sens pour tout. Mais c'est pas qu'au sujet de vous! Parce que si tu fais toi, tu as toi comme roi, c'est l'image d'après. Vous avez, il y a tout qui tourne autour de vous. Même chrétien, on peut tourner là-dedans. Regardez nos chants. Vous prenez, allez, 10 chants chrétiens. Combien de fois il y a « je » dans le chant? Combien de fois on parle de nos émotions? Quand je suis mal, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin de toi, je voudrais être plus près de toi, je. Ça peut paraître spirituel, mais en fait, il y a tout. On fait comme si on donnait à Dieu la couronne, mais on la garde quand même pas mal. Hein. Parce que même si on prétend chanter pour Dieu, c'est beaucoup au sujet de nos émotions. Je vais pas bien et quelque part, il y a un peu de la mélancolie chrétienne là-dedans. Alors que Dieu a un projet universel qui n'est pas pour vous qui est le don de soi. C'est l'image d'après. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour que les malades soient guéris, pour que les pauvres entendent gratuitement la bonne nouvelle, pour que le sourd entende, l'aveugle voit, pour que celui qui est né dans une famille aisée puisse avoir ce qui lui manque, c'est-à-dire une relation personnelle avec Dieu, pour que toi, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Bretagne, que ce soit n'importe où, tu puisses rencontrer Dieu. C'est un sens qui est le vrai pour tous. On a tous le même sens. J'ai lu récemment ce livre de Rick Warren, que moi j'apprécie beaucoup, à titre personnel, qui parle de... ce pasteur qui a amené énormément d'âmes au Seigneur écrit un témoignage très personnel à propos de son papa. On est d'accord, on a tous un père ici, hein. On a tous un papa. Peut-être vous l'avez connu, peut-être qu'il est parti trop vite. Eric Warren écrit à propos de son papa: mon père a été pasteur pendant plus de 50 ans. La plupart du temps dans de toutes petites assemblées rurales. C'était un prédicateur simple, mais consacré à sa mission. Il aimait beaucoup emmener des équipes de bénévoles à l'étranger afin d'aider à bâtir de petites communautés. Au cours de sa vie, il participa à la construction de 150 églises dans le monde. En 1999, il est mort d'un cancer. Au cours de la dernière semaine de sa vie, la maladie le tenait éveillé 24 heures sur 24. Il faisait des rêves et il expliquait tout ce qu'il voyait. Il revivait la construction de chacune de ses églises. Assis à ses côtés, j'en ai beaucoup appris sur lui. Écoutez bien ça. Une nuit, ma femme, ma nièce et moi, nous étions près de lui quand soudain, il s'est agité. Il a essayé de quitter son lit. Évidemment, il était trop faible et ma femme l'encouragea à se recoucher. Mais comme il refusait, elle lui demanda: « Mais Jimmy, que voulez-vous faire ?» Il répondit: je veux aller sauver encore une âme pour Jésus, encore une âme pour Jésus, encore une âme pour Jésus, encore une âme pour Jésus. Il répétait sans arrêt cette phrase. Au cours de l'heure qui suivit, il répéta encore une âme pour Jésus au moins 100 fois. Et moi, je pleurais, assis sur son lit. Papa posa sa main sur ma tête et me dit: sauve une âme de plus pour Jésus. Sauve une âme de plus pour Jésus. C'était comme s'il me confiait une dernière mission. Sauve une âme de plus pour Jésus. Ça, excusez-moi, mais c'est votre boulot. Pasteur, attendez, c'est vous le pasteur? Non, vous n'avez pas compris quelque chose. Voyez, vendredi, j'étais en train de préparer des cours biblique pour ceux qui veulent se préparer pour le baptême. J'ai eu un choc. Il y a 32 inscrits pour la session de janvier-février. Je dis pas pour l'année, hein. Je dis pour janvier-février, 32 inscrits. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y en a pas une de ces personnes est venue grâce à moi. Pas une. Pas une. Vous savez pourquoi elles sont venues? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un d'entre vous qui lui a dit: viens et vois ce que Jésus peut faire dans ta vie. Et en fait, ces âmes-là, j'étais en face d'elles et je me suis vraiment posé la question: mais Yvan, est-ce que ton cœur est devenu assez dur pour ne pas comprendre quelle chance tu as de connaître le sens de ta vie? Parce que toutes ces 32 personnes-là sont affamées, sont assoiffées de connaître Jésus. Est-ce que vous réalisez, oh, vous vieillissez, je sais, hein, je vieillis aussi, hein. Mais au bout de quelques années dans la vie chrétienne, on ne réalise même plus la grâce qu'on a eue de connaître Jésus. On est des espèces de robots chrétiens automatiques. Il n'y a plus un seul matin où vous vous réveillez en disant « je vais me faire manger par des vers » et il n'y a plus rien derrière. Parce que vous savez que toute votre vie est dans les mains de Dieu, que les cheveux de votre tête sont comptés, que quand bien même il vous arriverait quelque chose, l'Éternel veille sur vous comme sur la prunelle de ses yeux. Et si jamais il vous reprend, c'est que c'est son plan et qu'il a prévu un palais de gloire là-haut. Ça s'appelle la bonne nouvelle de l'évangile, qui vous a aimé avec tous vos défauts, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés comme ça. Et vous prenez ça tellement pour acquis, je prends ça tellement pour acquis. Et quand je voyais cette personne en entretien vendredi, cette jeune femme qui avait des larmes dans ses yeux, qui dit mais j'ai envie de rencontrer Dieu. Et toute sa vie, elle n'a pas eu du tout la chance que j'ai eue de naître dans une famille chrétienne comme un enfant où vous ouvrez le bec là, bing, et il y a une Bible qui tombe dedans dès le début. Qu'est-ce que j'ai été chanceux en fait. Et je voyais cette jeune fille qui avait une vie où tout avait été mal bâti parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle me dit, mais là maintenant, 2014 c'est mon année, je vais m'accrocher à Dieu. Je fais une révolution dans ma vie parce que j'ai trouvé le sens de ma vie. J'ai trouvé le sens de ma vie. Le sens de ta vie, pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. Il y a un sens général, puis il y a un sens spécifique. Vous avez vu pour Jean-Baptiste, quel est son sens? Il est le messager qui crie dans le désert, préparez-lui des sentiers droits. Il est le comme le prophète Élie qui devait venir, nous dit la Bible. La mission de Jean-Baptiste, c'était de s'accrocher à Dieu toute sa vie, et de préparer, ça, donc le toute sa vie, ça c'est le général, et le particulier, c'est et de préparer une génération pour rencontrer Dieu. Il était prophète de l'Éternel, il devait parler de la part de l'Éternel. Qui aimerait bien avoir une vie comme ça, remplie de force spirituelle comme Jean-Baptiste, un peu vous tous d'ailleurs. Et vous dites, mais je suis pas, Dieu m'a pas appelé à être apôtre. Pasteur, ça c'est vous ça. Peut-être certains ils disent, oh là là. Si j'étais comme le pasteur Yvan, peut-être que du coup ma vie aurait du sens, alors qu'aujourd'hui je suis une femme célibataire, j'élève un enfant, moi j'ai pas tout ça. Aïe aïe aïe, t'as pas compris ce que c'est que le sens de ta vie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que je peux te dire une chose, c'est que Dieu, c'est pas qu'une question de ministère le sens de ta vie. Moi j'étais hier soir avec mon petit garçon Ethan, et j'avais préparé mon message, vous voyez, et j'entendais cette voix de l'apôtre Paul dans ma tête qui dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes ?» Non. Tous sont-ils capables de parler dans des langues inconnues et d'interpréter dans l'église? Non! Et puis je voyais mon petit bout de chou. Et quand je le serrais dans mes bras, parce qu'il avait fait un cauchemar, il dormait mal. Et je caressais un peu les cheveux. Et dans mon cœur, j'avais, il fait partie du sens de ta vie. Parce que tu ne seras pas jugé sur ta capacité à parler dans un micro le dimanche matin. Tu seras jugé de la façon dont tu aimes ton fils. Que tu as un repère pour lui. Que tu l'aides à grandir. Tu as changé ses couches un jour tu devras lui pardonner ses bêtises, la façon dont il te parle mal, tu devras l'accompagner jusqu'au bout. Et ça, vous avez tous un aspect particulier, vous voyez. Ethan, il n'a qu'un seul papa. Mais tu vois, ta maman, t'es peut-être sa seule fille. T'as peut-être une amie, une collègue, t'es la seule chrétienne de son entourage. Eh bien ça, elle est ta mission personnelle. Oh, je pense à ceux qui vivent avec des maladies chroniques, qui ont un enfant malade. Oh, oh là là, ça c'est sûr que c'est pas le succès, comme dit le monde. Hein. Là, tu as pas les 5 étapes pour réussir, parce qu'un enfant malade, tu dois vivre chaque jour avec lui, tu dois l'aimer, tu dois le supporter, tu dois lui remonter le moral. Mais ça peut faire partie du sens de ta vie. Mais c'est beaucoup plus profond que le succès, là. Jean-Baptiste, ah, vous voulez l'admirer, vous dites, ah oui, bah ça au moins, oh, il est rentré dans l'histoire, ce révolutionnaire, etc. Vous savez ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Il a bouffé des sauterelles en longueur de journée. Il était seul, il pouvait pas prendre une douche, il était au milieu du désert. Parce que son appel était un appel qui, alors qu'il était petit, la prophétie qui était sur sa vie, c'est « Tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée. Tu seras différent des autres. » Et tu devras assumer les aspects spécifiques de ton appel que les autres, peut-être, n'auront jamais apporté. Vous savez, la Bible nous dit qu'il était d'une classe sacerdotale et d'une famille riche, Jean-Baptiste. Il est né dans une famille aisée. Il faisait partie de la ligne sacerdotale d'Abia. Il était un descendant direct d'Aaron. Le frère de Moïse. Sa famille était respectée en Israël. Et l'appel de Jean-Baptiste, c'était d'aller, non pas d'aller dans la ville de Jérusalem pour faire le malin, c'était d'aller seul dans le désert. Oh. Vous comprenez pas, en fait, un appel, le sens d'une vie, c'est pas une réussite d'une vie. Le sens d'une vie, c'est des fois être seul dans le désert et faire ce que Dieu t'appelle à faire dans le désert. Et être fidèle à Dieu dans ton désert, en se nourrissant de sauterelles avec une ceinture de cuir à la taille et en mangeant du miel sauvage. l'appel de Dieu, le sens de ta vie, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut bloquer le sens de Dieu, cet appel de Dieu pour ma vie? Regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. Luc 1. Luc 1. C'est merveilleux d'être appelé, mais je peux vous dire que beaucoup de choses vont essayer de casser. Beaucoup de personnes, parfois, vont essayer de casser les projets de Dieu pour ta vie. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Et c'est très important. Donc je ne peux pas passer là-dessus. Est-ce que vous réalisez que le sens de votre vie, qui dépend du Créateur, il existe depuis quand? Depuis quand Dieu a un projet, a un sens pour ta vie? Dites-moi. Pendant longtemps, je me suis dit, comme j'ai vu que l'enfant qui s'appelait Jean et qui était encore un embryon dans le ventre de sa maman Élisabeth, quand elle rencontre Marie qui, elle, porte Jésus, l'embryon commence à faire des bonds dans le ventre parce qu'il rencontre son Seigneur et son Sauveur qui est le sens de sa vie. Hein. Le sens de la vie de Jean, c'est de rencontrer Jésus. Mais en fait, je lis dans le livre des Éphésiens quelque chose de fou. C'est que en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Oh, tu réalises pas que avant même que Dieu ait créé le soleil, cette boule de feu en fusion là avec des gaz dont je connais pas la composition, qui font des milliards de tonnes de soufre, de feu, de fusion, d'hélium, de je sais pas quoi, il avait prévu que Marion vienne sur la terre. Il avait prévu que Martine vienne sur la terre. Il avait prévu que Jean vienne sur la terre. Il avait prévu que ton prénom soit là. T'as un problème avec ton créateur. Hein. Il avait prévu. Seigneur, tu veux dire que je suis plus important que l'étoile de Jupiter, la planète Jupiter? Oh, il m'avait prévu, il t'avait anticipé. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait que ton papa et ta maman, un jour, allaient se rencontrer. Non, plus que ça. Il savait que ta grand-mère, même si c'était un mariage forcé avec ton grand-père, elle puisse te permettre d'exister. Et que tous les accidents de génération en génération ont permis que tu sois là parce qu'il avait prévu que tu sois là. C'est même pas quand tu étais une masse informe et vide. Et c'est même avant qu'aucun jour de ta vie ne soit, il savait exactement combien de jours il y avait. C'est effrayant et beau à la fois de savoir que tout était prévu par Dieu. Il savait exactement que tu allais être nul en maths. Et pourtant, il a dit « je l'aime bien ». Il avait tout anticipé, il savait exactement, et il dit, mon seul but, c'est qu'il rate pas sa vie, le sens de sa vie, et que pendant les années que je lui donne, pendant les années que je donne à cette fille de vivre, malgré tous les handicaps qu'elle a eus, eh ben, qu'elle puisse développer une relation avec moi pour que je passe l'éternité avec elle. Et ça, c'est extraordinaire. Dans Galates, l'apôtre Paul qui a gâché toute la première partie de sa vie, il dit, dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux dans les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Vous savez qu'ils persécutaient les chrétiens terriblement. Mais il dit, mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Dieu savait tout ça. Et il a choisi volontairement, en conscience, de te faire exister. Il savait que peut-être qu'il allait avoir un viol qui allait permettre que toi tu sois là aujourd'hui. C'est, Seigneur, c'est pas possible. Il faudrait que le dessein soit parfait parce que sinon je comprends pas. Ben non, justement. Dieu a mis dans sa famille une prostituée comme Rahab. Il a pris des gens tordus comme Judas. Je parle de Judas, le fils du patriarche. Et Dieu savait que tu existerais et il avait prévu pour toi. Mais il y a des choses qui vont te bloquer. C'est premièrement le doute. Le doute, ça va te bloquer. Regardez ce qui est dit dans l'évangile de Luc. Le papa de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie, d'accord ? Mais avant que Jean-Baptiste ne soit, il y avait un problème. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants. Ok, le succès n'est pas lié à ce que tu fais. Vous comprenez ça ? Le succès n'est pas lié uniquement à ce que tu fais. Elle n'avait pas d'enfants et pourtant c'était une femme géniale. Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de la classe sacerdotale, donc d'entrer dans le temple. Regardez au verset 11. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean, et il sera pour toi le sujet d'une grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et à former un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme très âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Ah ouais, vous dites amen, mais c'est chaud. Parce que quand il se voit tout fripé là, et il voit la vieille toute fripée qui est à côté de lui, il se dit franchement Dieu. Alors, je vais te dire honnêtement, très gentiment, hein, tu vois, t'as 40 ans de retard. Parce que mamie là, ça va pas le faire au niveau des bébés. Et d'ailleurs, des fois, on est énervé que Dieu nous donne une nouvelle aussi bonne aussi tard, d'accord ? Parce que quand elle avait 20 ans et qu'elle faisait l'objet des premières moqueries de ses copines qui disent « Regarde, t'es stérile, t'as pas d'enfant !» et qu'elle était stigmatisée, c'est là qu'elle aurait voulu avoir le bébé. Mais maintenant qu'elle est vieille, là, c'est la galère de dire « Quoi, je vais devoir croire et tout, alors je vais me projeter, je vais commencer à acheter du linge pour bébé et tout, et si ça n'arrive pas, c'est la misère, on va me dire « Mais le vieux, il a perdu la tête, là !» Et du coup, le doute va essayer de bloquer le projet de Dieu, parce que c'est ce qui se passait. Le doute est là pour comme empêcher ce petit garçon de naître, ce projet extraordinaire du sens de la vie de naître. Le diable va essayer de mettre le doute dans le cœur du papa pour que ça n'arrive pas. Vous savez, mesdames, là, celui-là, c'est un homme qui a douté, mais vous, des fois, c'est le stress qui vous fait, mais vous êtes en panique, vous n'osez même pas croire au projet de Dieu. Regardez comment elle va réagir, Madame Élisabeth, là. On est d'accord, c'est pas une jeune, hein. C'est pas une jeune, hein. Verset 24, quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Et pourquoi mamie Élisabeth se cache ? Mettez-vous 2 minutes à sa place. Le stress d'être enceinte, je sais pas s'il y a 65 ans, un truc comme ça, mais le stress d'être enceinte, qu'est-ce que la voisine va dire? Eh, hey, tu sais pas quoi, je suis enceinte! Ma chérie, t'as un problème dans ta tête. T'as eu beaucoup de souffrance, ça a été lourd, et puis là... Mais regarde, j'ai mon ventre! Il dit... Non, t'es en train de gonfler, mais c'est la ménopause tardive, là. Et du coup, tu veux le cacher? Parce que ça te stresse! Et elle va se planquer, et elle va pas assumer, parce que d'un côté, dans son cœur, elle dit c'est magnifique, mais elle a hyper peur de la réaction des autres. Elle a hyper peur du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est prêt à gâcher le projet de Dieu. Vous voyez ça? Le conformisme. C'est possible de mettre l'image sur le conformisme. Les autres veulent que tu sois comme un petit soldat du régiment. Tous pareils. Regardez ce qui va se passer. On tourne la page. La fois d'après. Quand le moment de la naissance arriva, verset 57, où Élisabeth devait accoucher, elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle. Et le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Ça se fait comme ça dans la famille, ça s'est toujours fait comme ça, ça sera un Zacharie junior. Mais sa mère intervint et dit, non, il s'appellera Jean. Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Personne. Dès que tu vas sortir du rang, dès que tu vas commencer à faire quelque chose qui est personnel, vous voyez, l'appel personnel de Dieu, dès que tu vas essayer de le mettre en évidence, le doute va te faire renoncer et le conformisme va te faire renoncer. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et les personnes vont pas vouloir que tu sois différente d'elles. Tu sais pourquoi? Parce que ça met en évidence que eux font face à des frustrations et sont en échec des fois par rapport au vrai sens de leur vie. Alors, pour ne pas se poser trop de questions, on fait tous pareil tout le temps. Et on met des bonnes traditions et on change pas parce que au moins, il n'y a pas de personnes qui sortent du rang. Il n'y a pas de comparaison négative. C'est triste. Parce que le projet de Dieu pour cet enfant est différent. Est différent. Le stress et le doute étouffent ta foi. Mais des fois, c'est les autres qui vont essayer d'étouffer ta foi. Oh, vous savez, ils se retournent tout le temps, les gens. Si votre vie et vos réalisations dépendent du regard des autres, vous êtes mal parti. Hein. Vous êtes mal parti. Parce que regardez les mêmes quelques temps après. Bon, ils ont demandé à papa d'intervenir, ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel était le nom qu'il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette Samsung d'un écran 10.1. Non, ça c'est rajouté. C'était pas Apple qui a inventé l'iPad. Hein. Au grand étonnement de tous, il traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans les montagnes de Judée. Et tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Mais que sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était avec lui. Et maintenant, ils sont tous là à dire « Waouh, il est différent !» Ah, les gens, ils changent, mes amis. Quand il est parti tout seul au désert, on lui dit « Oh, c'est un malade, lui. Qu'est-ce qu'il va faire dans son désert ?» Il a un problème psychologique. Il est dit que très jeune, Jean-Baptiste partit au désert. Moi, je croyais que c'était que quand il avait démarré son ministère. Non, la Bible nous le dit que c'était bien avant. L'enfant grandissait, et l'Esprit Saint était sur lui et il partit au désert. Donc assez vite, l'enfant est parti. Une crise d'ado maxi, vous voyez. Un gros problème à l'adolescence, cet enfant. Il voulait aller manger des sauterelles. Et les mêmes, quelques temps après, tous voulaient se faire baptiser par Jean. Ah, quel est le prophète de l'éternel. Oh, quel loin de Dieu. Les mêmes, quelques temps après, il est en prison, il ne sert plus à rien ce gars-là. Les gens changeront. Si tu dépends de leur avis, tu ne feras jamais rien. Ils seront contre quand tu bouges, ils seront contre quand tu restes. Parce qu'à la fin de ta vie, après t'avoir bloqué tous tes rêves, ils te diront, oh, dis donc, tu n'as rien vécu, hein. Je t'en collerai bien une, tiens. Maman, tu m'as bloqué tout et maintenant tu me dis que j'ai rien fait. Alors vivez le projet de Dieu pour votre vie à fond. Vous n'aurez pas le regret. par rapport à ça. Jean-Baptiste, il y est allé et il n'a pas dépendu du regard des autres parce qu'il n'était jamais à la mode. Il y a quelque chose que l'on vit lorsque l'on est dans le plan de Dieu, c'est qu'on est à contre-courant. C'est pour ça que c'est un révolutionnaire. Il est toujours à contre-courant. C'est énervant d'être à contre-courant. Parce que vous êtes toujours en train de tirer quelque chose et d'avoir... Il a un petit temps d'avance et... Et du coup, il vit vraiment la solitude. Moi, je n'aurais pas aimé avoir l'appel de Jean-Baptiste dans le désert, hein, franchement. Waouh. Puis il y a des personnes qui vont prononcer des paroles de mort. Vous avez vu, même papa, hein. Même papa, l'ange lui a dit, écoute, là, je vais le faire en français très courant, vous me pardonnerez pour la traduction très, très propre, mais quand Jean a dit, elle est toute fripée, la vieille que tu as mis à mes côtés, je vois pas comment j'aurai un enfant. Et qu'est-ce que lui a dit l'ange? Écoute, tu voulais un signe, bah tu seras muet jusqu'à la fin. En version très courant, t'as saoulé Dieu avec tes paroles de mort. Méfiez-vous parce qu'il y a des personnes qui vont prononcer des paroles de mort sur votre vie, et si vous les enregistrez, c'est dangereux. J'ai bien aimé ce petit dessin, t'es nul. D'ailleurs, regardez l'orthographe de t'es nul. Ça me rassure parce que ça veut dire qu'ils en savent pas plus que moi, d'accord? Des fois, les personnes qui vont vous juger, c'est des personnes qui elles-mêmes ont des problèmes. Et elles vont vous jeter comme ça des paroles de mort pour vous empêcher de réaliser le projet de Dieu pour votre vie. Alors, j'arrive à ma conclusion. Parce que je vais pas laisser toutes ces personnes qui veulent bloquer le vrai sens de ma vie. Troisième point et dernier point. Comment favoriser le vrai sens de ta vie? Comment favoriser? Ah là là, je remercie Dieu pour Elisabeth. Parce qu'il y avait une maman là, qui était une maman de foi, qui a dit, non, ça ne sera pas Zacharie Junior, son nom s'appellera Jean. Ouais, mais t'es bizarre, t'es la seule, regarde et tout. Non, ça sera Jean. Est-ce que tu as dans ton entourage des colonnes spirituelles qui sont prêts à ne pas aller dans le move, qui ne sont prêts à ne pas aller dans la tendance générale, mais à pouvoir dire, reste fidèle à Dieu? Est-ce que quand tu serais prêt à quitter ton appel, il y a quelqu'un qui a le courage de te dire « Excuse-moi mon gars, mais tu es en train de rater ta vie. » Parce que cette personne-là, ça te fait mal, mais au moins elle est là. Et il faut que tu aies quelqu'un dans ton entourage qui soit capable de t'arrêter lorsque tu prends un mauvais chemin. Et moi, je bénis Dieu pour cette maman Elisabeth qui a su dire « Non, 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 non. Cet enfant est différent et on va le laisser assumer le projet de Dieu pour sa vie. Je fais des entretiens, j'en fais 500 par an. Et je pose une question tout le temps à chacun en entretien. Lorsque j'arrive à l'analyse de votre vie d'un point de vue social et de votre entourage, je vous demande, et je te poserai la question, si un jour je te vois en entretien, toi qui es là, je te poserai la question. T'as combien de véritables amis chrétiens? Je vous laisse le temps de réfléchir. Le mot véritable déjà vous gêne peut-être. Je le maintiens. C'est-à-dire des personnes qui peuvent te dire des choses même quand ça ne va pas dans ton sens, ou des personnes qui sont des colonnes quand tu as envie de craquer. Si tu n'as que des amis qui sont loin de Dieu et tous tes copains, toutes les personnes qui sont proches de toi sont des personnes sans Dieu, tu es en danger. Si tu n'es pas capable de me citer 2-3 personnes sur lesquelles tu peux tenir, j'espère qu'il ne va pas trop y avoir de tempête dans ta vie parce que tu es fragile. On a tous besoin d'avoir un entourage spirituel. Tu peux pas avoir beaucoup de personnes, je vous dis pas, c'est impossible que vous me disiez, ouais, j'ai 10 amis chrétiens, etc. C'est pas vrai. Vous en avez 1, 2, 3, peut-être 4. Il y en a pas beaucoup ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Et puis, j'arrive à un autre point. L'extrême inverse. Quand vous êtes trop église, vous avez plus d'amis inconvertis, plus d'amis qui connaissent pas Dieu, c'est pas bon non plus. Moi, j'essaye de mettre une règle du 50-50. 50% d'amis proches qui sont pas du tout chrétiens, et 50%, c'est mon truc à moi. Hein. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai voulu garder mon métier. Parce que j'avais un copain qui est prof de philo, et c'est un vrai athée. Et c'était très important pour moi, parce qu'il est le sens de ma vie aussi. Comme le papa de Rigouarène, de dire « Sauve une âme pour Jésus ». Quelqu'un qui me dit, moi je crois pas à tes histoires de bon Dieu, c'est n'importe quoi, c'est trop simple, c'est pas possible, etc. Ça me challenge, ça m'oblige à garder cette vision du témoignage et de pas me poser des questions que de chrétiens en disant, Seigneur, j'ai une question fondamentale, est-ce que je dois prier 12 minutes? 27 minutes ou 42 minutes pour te plaire. Oh, super. Si vous traînez qu'avec des chrétiens, vous finirez par couper des cheveux et de regarder la taille des machins que de l'extérieur. Vous allez vous faire des trucs d'église, très très église, parce que vous êtes que dans l'église, avec que des gens de l'église. Oh là, qu'est-ce que je prends comme claque en rendez-vous de pastoral lorsque je vois des gens qui viennent vraiment loin de Dieu. Ils me font du bien, parce qu'ils me montrent qu'avec toutes leurs poubelles, eh ben combien Dieu nettoie les poubelles. Combien Dieu change une vie, combien Dieu transforme. Et là, je me dis, oh là là, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Il faut les deux. Pas tout seul. T'as besoin d'un ami chrétien, mais pas non plus dans l'autre sens. Pour terminer, vous savez, si vous voulez favoriser le sens de votre vie, vous allez avoir des choix quotidiens qui ne sont pas faciles. Il est dit que Jean-Baptiste devrait se priver de boissons alcoolisées et de vin. Vous buvez du vin ou pas ? Non, oui, non, oui. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Alors ça, c'est un problème typiquement chrétien. Vous voyez, ça c'est... Eh bien, ni l'un ni l'autre. Comment ça, pasteur, ni l'un ni l'autre ? Eh bien, l'apôtre Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, ça te fait du bien. Il dit, ne tombe pas dans les excès. Et par contre, Zacharie, qui est un super prophète de l'Éternel, Dieu lui dit, touche pas une goutte d'alcool. Oh là là, je comprends rien à Dieu alors. Ah, ça va t'obliger à réfléchir plutôt que de devenir un religieux. Écoute ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit personnalise ses conseils. Il y a des conseils personnalisés qui dépendent de ton caractère et de ton appel, du sens de Dieu pour ta vie. Si tu es Jean-Baptiste et que tu vas vivre dans le désert pendant plusieurs années, loin de tout le monde, qu'est-ce qui va avoir comme problème ? Tu vas être seul, d'accord ? Et la solitude, ça peut te ronger. Et quel est le risque que lorsque tu es seul et que tu as un beau petite bouteille d'alcool à côté ? C'est de tomber amoureux du petit litre qui est à côté. Parce que les gens seuls ont beaucoup plus de risques de devenir accro à l'alcool pour combler le vide et la solitude. Parce que l'alcool réchauffe le cœur, ils vont te dire. Et tous les SDF sont tentés par ça. Moi, j'ai de la chance d'être bien entouré et l'alcool m'a jamais posé de problème. Madame, quel est ton problème ? Jeune fille, quel est ton problème ? Parce que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi, j'ai pas les mêmes problèmes que toi. C'est cliché, mais c'est vrai. Mais les hommes, vous voyez, la gestion de la télécommande, la gestion d'Internet, de ce que tu regardes devant les yeux, tu dois être plus strict que la mamie de 79 ans qui n'est pas du tout tentée par ce que tu vas regarder. Et ça ne va pas impacter sa vie, tu vois. Il y avait notre mamie antillaise Renetta tout à l'heure au premier culte. Ah, Renetta, elle n'a pas les mêmes tentations que moi. Hein. Mais elle a d'autres problèmes. Elle doit lutter contre d'autres ennemis et elle doit se mettre des règles et des choix quotidiens qui ne sont pas les mêmes. Certains ont droit à ça, d'autres n'ont droit qu'à ça. Eh ouais. Parce que vous avez un appel personnel. Parce que vous êtes unique, vous êtes une créature merveilleuse. Et si votre nom est Jean-Baptiste, vous devrez vous comporter selon ce que le Saint-Esprit dit à Jean-Baptiste. Et si vous êtes Marion, et si vous êtes Ophélie, et si vous êtes Liliane, vous avez un appel spécifique à votre nom. Parce que Dieu a un appel universel et un appel personnel. Et je vous quitte en vous disant, ah, manquez pas une révélation de Dieu. Dans Jean 1, verset 32, en se quittant, je vous dis ça simplement. Dieu, un jour, a permis à Jean-Baptiste, qui était tout seul pendant si longtemps, d'avoir une révélation personnelle extraordinaire de Dieu. Un jour, alors que Jésus vient pour se faire baptiser, il est dit, au verset 32, Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, et c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Et il parle de Jésus. Ah, ah, ah. Avant que tu partes et que tu n'écoutes plus ce message, je voudrais te dire, de quand date la dernière révélation que tu as eue avec Dieu ? Tu n'auras pas une révélation de Dieu tous les 4 matins. C'est pas vrai. Des fois, les pasteurs, ils mettent une grosse pression en disant « Ouais, depuis quand Dieu t'as pas entendu Dieu te parler ?» Dieu te parle pas à voix audible comme ça tous les jours. Il y a eu plein de matins où Jean-Baptiste est allé, il avait ses sauterelles, il avait son miel sauvage, et il grignotait les grillons, là, et il se passait pas grand-chose, et il y avait deux pelés et 3 tondus qui se venaient se faire baptiser, et il fallait continuer à vivre jusqu'au jour où, eh ben, ce matin-là, heureusement qu'il s'est levé, ce matin-là, heureusement qu'il baptisait comme tous les jours, parce que ce jour-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui venait, et le Saint-Esprit allait descendre, et il allait voir ça, et dire, waouh! Parce que ça te regonfle le sens de ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivrez pas tous les jours, ça. Mais de temps en temps, et j'espère que ça date d'il y a pas trop longtemps, vous avez besoin d'une révélation fraîche et personnelle de Dieu. On va fermer les yeux ensemble. Depuis combien de temps tu n'as pas vu Dieu agir fortement dans ta vie? T'as pas été touché et enthousiasmé par Dieu? J'espère et je prie pour toi que Dieu te donne une révélation personnelle, parce que ça, c'est le genre de choses qui vont t'aider à favoriser le vrai sens de ta vie. Le vrai sens de ta vie. Seigneur, on va fermer les yeux un instant. Oh mon Dieu, le vrai sens de ta vie, tu ne le trouveras pas en toi-même. Tu le trouveras, ta raison d'être sur la terre, lorsque tu comprendras pourquoi Dieu t'a créé, dans ton aspect universel et dans ton aspect personnel, y compris certaines choses que tu n'aimes pas, c'est vrai. Mais Dieu te donnera une force chaque jour de vivre dans ton désert. Ton appel passera par des moments merveilleux, savoure-les. Des moments où Dieu va se révéler à toi, et je te souhaite qu'en 2014, Dieu se révèle à toi comme jamais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, une bénédiction de Dieu qui vienne pour ceux qui sont fidèles. Il y a un chant dans mon cœur qui dit « Jésus, sois le centre ». C'est pas moi le centre, c'est toi, Seigneur. Sois le vent dans mes voiles, sois le feu dans mon cœur, sois la raison de ma vie. On peut se lever ensemble pour le prendre.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vie. Sois mon guide, Jésus. dans